France Musique.
Les grands entretiens, Corinne Schneider.
Je suis Emmanuel Krivine, je suis né à Grenoble le 7 mai 1947 et je fais chef d'orchestre.
Emmanuel Krivine, à 16 ans, vous sortez avec votre premier prix de Paris. Et là, vous êtes encore très très jeune et vous continuez vos études, vous partez à Bruxelles. Je crois que c'est la prochaine étape. Avant de revenir après, dans le troisième cycle, à Paris. Donc il y a cet aller-retour là de travail. Avec qui travaillez-vous et que recherchez-vous à ce moment-là? Est-ce que c'est la grande période des prix internationaux? Passer des concours avec votre violon, c'est ça?
Et oui, mais tout ça, c'était... Tout ça, je ne l'avais pas choisi. Mais c'est un peu normal et en même temps j'aurais dû, mais ce serait à recommencer, je vous répète que je fais pas ces concours, je veux dire les critères du sport appliqués à la musique ça m'intéresse pas, c'est le summum de la connerie. Il n'y a pas plus con que ça, sauf que c'est un bon outil, c'est vrai que quand un impresario entend un gars dans un concours international et donc le fait démarrer, il a pu l'entendre grâce à... Bon, de là à sacraliser une médaille pour comparer deux chaconnes de barre comme si on comparait des types qui courent ou qui envoient un ballon dans un... Non, on peut pas comparer. Qu'est-ce que tu veux comparer entre deux gars qui jouent de la musique pour donner des prix? Enfin, c'est un petit peu bizarre tout ça. C'est pas grave, c'est peut-être un mal nécessaire. Je n'ai pas le recul. Moi, je suis en réaction. Hein. Le concours en musique, c'est... Pour moi, c'est mettre la bêtise sur un piédestal. C'est une erreur, une profonde erreur. Alors qu'en sport, en des tas de choses, je comprends tout à fait qu'on compare à une seconde près quelqu'un a gagné une course en natation, ben c'est mesurable. Je vois pas comment tu fais, même avec de la pure virtuosité, hein. Même avec des octaves de la sixième d'Isaïe ou même la fin du Tchaïkovski pour piano, la série d'octaves à la fin, je vois pas ce que tu peux comparer. Compliqué, hein. Je me souviens quand j'ai fait le concours Paganini, j'avais rien foutu, absolument rien. C'était les vacances, j'étais tombé amoureux d'une étudiante en pharmacie à Tunis. J'ai rien foutu, j'ai pas travaillé, rien.
C'était à quel âge?
Paganini, c'est en... Oh là là, j'avais 18 ans ou même pas, j'en sais rien. Et alors, j'ai pas travaillé la cadence de Soret, de Paganini, j'ai rien foutu. Donc j'ai, comme on dit chez les gens... mal armé, hein, merdé dans la cadence de Soret. Ensuite, en 65, non, même avant, je vais voir Sigetti, Joseph Sigetti, donc l'ami de Bartok, hein, le beau-père de Magaloff, qui est devenu un ami d'ailleurs, Magaloff. Dans Sigetti, je vais le voir à Clarens, au-dessus de Montreux, où j'ai habité il y a encore pas longtemps, et je lui demande ce qu'il a pensé au concours Paganini. Il regarde ses notes, et il avait noté « pas de mémoire digitale ». Je n'avais que ça, que de la mémoire digitale. Simplement, le mec a fait ce qu'on appelle chez les gens, plus ou moins savants, une projection ou un amalgame. Lui, étant un type qui travaillait sans arrêt, qui n'était pas doué du tout, tout le monde le sait, Milstein en parle quand il l'entendait dans un hôtel, et tout ça, travailler toute la journée, Sigetti n'était pas doué. C'est un très bon violoniste, mais pas doué. Donc, il travaillait comme un fou, la digitalité. Donc, il a pas pu imaginer que j'ai rien foutu. Comme général, il se dit, bon, il a pas de... Non, je n'avais que ça, la preuve. Un jour, dans la cuisine, quand j'étais petit, je me souvenais même plus du thème du cinquième de Vieux Temps. Il est revenu dans les doigts. Tout le concerto est revenu dans les doigts, alors que je savais même pas comment il commençait. Thank you.
Emmanuel Krivine, qu'est-ce qui vous faisait le plus plaisir dans ce répertoire de violon à cette époque? Est-ce que c'était Bartok, cette deuxième sonate? Est-ce que c'était là le répertoire qui vous attirait le plus? Ou, bien sûr, vos Mozart, vos sonates de Mozart?
J'aimais des tas de choses, mais je me dirigeais, c'est le cas de le dire, vers le symphonique, vraiment déjà en ce temps-là, et même enfant. Mais ce qui m'intéressait au violon, c'est... Je ne sais pas. Il y avait un côté de ce que Berenson appelait valeurs tactiles. Il y avait la digitalité. Il y avait toute l'insanité de ce monde-là, parce que il faut être très, très costaud du bulbe. Très costaud du bulbe pour que le violon ne soit pas malsain. Il y a peu de gens qui en réchappent. Oistrakh en réchappe. Shaham. Eiffel, c'est plus compliqué, mais ça... Capuçon est un gars qui est tout à fait heureux sur un violon. Je ne sais pas comment il fait, mais tant mieux pour lui. Le violon est quand même compliqué. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'il y a toutes ces connotations diaboliques dans l'histoire, dans la légende, dans l'iconographie, dans tout. Il y a toujours le diable pas loin. Bon, ce n'est pas par hasard quand même. Donc, c'était compliqué. Ce que j'aimais comme répertoire, des tas de choses différentes. J'aimais bien être un singe dans un arbre, dans le Rondo Capriccioso de Saint-Saëns, où j'aimais tout à fait... chercher dans Bach, mais j'étais pas mûr pour ça. Je le serais maintenant, je pense, grâce à la chambre philharmonique. Mozart, j'y comprenais rien, mais les gens disaient que j'y comprends quelque chose. Pour moi, j'y comprends depuis la chambre philharmonique aussi, me semble-t-il, parce que ma femme m'a fait connaître tous les traités, plein de choses, puisqu'elle est de ce monde-là.
Votre femme violoniste?
Oui, elle n'y est plus maintenant, elle soigne plein de gens, elle a changé tout à fait de choses. Mais si vous voulez, j'aimais de plus en plus l'orchestre, et grâce au concerteur de Paris, on peut dire, j'ai pu faire de l'orchestre, puisque l'orchestre était plus ou moins obligatoire aux grandes dames des professeurs d'instruments qui trouvaient que ça abîme le son. Ce qui n'est pas faux, hein. C'est ça qui n'est pas faux. Mais ça veut dire quoi, abîmer le son? Ça abîme le son pour ce qu'ils veulent eux, c'est-à-dire du Paganini. Mais ça abîme pas le son pour faire de l'orchestre. Je pense que tout ça est conciliable. On peut parler du violon un peu en disant que dans le violon, si vous voulez, il y a de tout. Le violon peut être considéré comme, on peut dire, vertical, linéaire, c'est-à-dire la gymnastique, la digitalité, la mélodie, l'univoque. Mais vous avez eu de tout temps des violonistes qui étaient beaucoup plus larges, à commencer par Joachim. Vous avez quelqu'un, en tout cas, en ce qui concerne mon vécu, qui était Isaac Stern, qui a été Isaac Stern et Schering. ont été, dans mon historique personnel, dans mon paysage, les premiers à voir la musique d'une autre façon. Ils achetaient, on faisait plein de musique de chambre, plein. Schering avait une toute autre approche aussi que les klezmer. C'était une autre approche de la musique. Il n'y avait plus ce côté proche de l'hystérie ou lié à l'hystérie. Il y avait plusieurs façons d'être violoniste. Adolf Busch également. Moi, j'ai été élevé forcément à cause de plein de choses et du Conservatoire de Paris, dans vraiment le violon sportif, quoi. Mais vous avez toujours eu plein d'autres genres. Et maintenant, ce genre est courant. Vous avez des gens comme Capuçon, comme Shaham, comme Julia Fischer, comme Tetzlaff, comme des gens qui sont des musiciens jouant du violon. Voilà. Pas des violonistes faisant par hasard de la musique. Oistrakh, je l'avais croisé alors en 67, je crois. Oistrakh passe dans l'entrée du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Moi, j'étais à la chapelle musicale. Et Oistrakh était au jury du concours Elisabeth. Et moi, je suis dans l'entrée du Palais des Beaux-Arts et il passe près de moi pour sortir. Mais je vous assure, j'ai tremblé jusqu'au soir physiquement. J'ai une tremblote. J'étais fasciné. Et ça m'a fait trembler, c'est fou, hein, tellement j'avais de considération pour ce mec.
France Musique, les grands entretiens d'Emmanuel Krivine.
Vous avez, en 1965, rencontré Karl Böhm, c'est à Salzbourg, qui est finalement la personne qui va croire en vous en termes de chef d'orchestre. Et vous n'avez qu'à peine 17 ans.
Ben, c'est ce qu'on appelle prosaïquement le passage à l'acte. C'est la première fois, moi j'étais à Salzbourg pour un cours de violon. Ou d'ailleurs, mais j'étais complètement timbré en ce temps-là, parce que par exemple, j'ai raté. C'est à Salzbourg en 65 que j'ai raté la dernière page du concertino de printemps de Milo, Darius Milo. J'ai foutu un pastis, pas possible. Enfin, il me semble, peut-être maintenant, je dirais, il y a 4 notes, mais en ce temps-là, j'ai raté une note et je. Bon, bref. Alors j'ai raté cette page, j'étais élève, hein. J'ai longé la Salzach pendant je sais pas combien d'heures pour me jeter dedans parce que j'avais raté ça, et ma mère a appelé la police. On me trouvait pas. Non, c'est pour vous dire où j'en étais, hein. Ça allait fort. C'était quelque chose. Hein. Bref, peu importe. C'était à Salzbourg, là. Et je vais au concert, et il y a la Seth Bruckner, Vienne Carl Böhm. Et quelques jours après, ou peut-être que je mélange, il me semble que c'est la même semaine ou la même année, Ariane Anaxos, Böhm. Donc c'était, si vous voulez, la première fois de ma vie que j'étais en présence d'un gars dont d'ailleurs j'avais déjà les disques puisque j'avais acheté le donjon à la braderie à Grenoble. Donc j'étais là à ce concert, c'est la première fois que j'avais un grand orchestre magnifique sur scène, que j'entends ça, un orchestre comme ça, en plus dans la Seth Bruckner, qui est une merveille absolue évidemment. Donc j'ai voulu rencontrer cette personne. Je vais à la sortie. Bon, que mon père m'a droppé parce que pour lui, tout ça, c'est des nazis. Il n'avait pas tort, évidemment. Le fait que j'ai approché Carl Böhm, ça n'a pas trop plu à mon père, évidemment, puisqu'ils étaient de tout à fait... Moi, j'ignorais carrément toutes ces questions nazies de Böhm, etc. J'étais pas du tout là-dedans. Non, ce qui a été, pour moi, c'est pas tellement la rencontre de Böhm. C'est oh là là, c'est ça l'orchestre? C'est ça la musique? C'est ça la musique d'orchestre? Tiens, donc... Toute cette chose dont je suis tout le temps autour et je n'écoute que de ça, que de la... J'en fais en orchestre un peu, des remplacements un peu partout, des trucs, bon bref, mais je n'ai pas tâté de... Donc c'est possible, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Et du coup, je m'oriente inconsciemment vers ça et j'ai revu Böhm, évidemment, après quand il passait à Paris. Et si je suis maintenant dans ce métier depuis quelque temps, pour un bail entre nous depuis ce moment-là, en fait...
Et ben, 64.
Oui, c'est 65, 66. 6, par là, j'ai mis le pied à l'étrier après dans des orchestres amateurs, enfin bref, et puis après, conduisant du violon, bref, c'est possible.
Passe-t-il entre ce moment précis à Salzbourg et ensuite 1975, qui est le premier concert que vous donnez à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France à Montreuil, à la salle des fêtes de Montreuil, où justement, là, certains vous font confiance, c'est-à-dire Gilbert Ami, par exemple, qui est là, qui vous donne cette chance d'aller devant l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Mais entre 64, 65 et 75, c'est-à-dire une dizaine d'années, comment faites-vous vos premières armes à la baguette?
Eh bien, si vous voulez, d'abord Montreuil, c'est Voslinski, qui m'a aidé beaucoup pour mes débuts, et Gilbert Ami m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont mis le pied à l'étrier. Je suis reconnaissant à ces deux oiseaux de m'avoir fait confiance. C'était des gars en plus patients parce que j'étais très encombrant. Je voulais carrément faire la loi dans tout ce que je touchais. Il faut dire que j'avais un culot terrible. Je pourrais pas être comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais un culot fou. Parce que je me souviens être allé, mais je sais pas en quelle année, je suis allé voir Landowski, que je connaissais pas, rien. J'ai demandé rendez-vous, je suis allé voir Landowski et je lui ai dit, donnez-moi l'orchestre de, je crois qu'Auria Combe avait eu son AVC, je crois, et à Toulouse, l'orchestre chambre de Toulouse, et j'ai dit à Landowski, comme ça, un gars que j'ai jamais connais pas, j'ai dit, donnez-moi cet orchestre de Toulouse, en une semaine, je vous fais mieux que l'English Chamber Orchestra. J'ai sorti ça, hein. Je sais pas comment j'oserais maintenant dire un truc pareil à quelqu'un. On m'appelait arriviste, et comme dit un copain, moi, j'étais plutôt arrivant. Mais c'était...
Vous avez une vingtaine d'années.
C'est bizarre. Et je tannais les gens pour me donner un orchestre. Mais en fait, entre 65... Mais j'ai fait pas mal d'expériences du violon. Violon, ce qu'on appelait en ce temps-là, très poétiquement, violon conducteur. Pas de travaux, mais juste violon conducteur. On ne sait pas si un tirait comme artiste musicien. Et donc, je faisais plein d'expériences comme ça dans tous les coins. J'assistais à des cours de direction d'un peu partout. J'y allais au conservatoire de Bruxelles. Là, j'ai vu Mazel. Ça, c'est Voslinski qui me l'a présenté. J'ai vu Mazel là, qui m'a dit « faites ci, faites ça ». J'allais aux répétitions de l'opéra. Je me souviens d'avoir vu des choses merveilleuses aux répétitions. Je faisais Doucan, qui était un très bon prof de violon, adorable en plus. Un gars bien, quoi. Dans le monde du violon, un gars très sain, qui cherche l'épanouissement de l'autre. Et donc, il me faisait remplacer, puis je faisais beaucoup de variétés, énormément de variétés pour gagner ma vie. J'allais dans toutes sortes de trucs, j'étais avec Paul Naref, je faisais plein de trucs. On me voit même, je me suis vu par hasard un soir dans une rue, c'était rue Daguerre, il y a très longtemps, je passe devant un café, il y a un jukebox, et je me vois en veston gris avec un nœud rouge, jouer dans le dos de Enrico Macias. Bon, ça existe. Donc, j'ai fait plein de trucs en ce temps-là pour gagner ma vie quand je suis rentré à Paris en 69-10 après la chapelle musicale. Donc, là, j'assistais à plein de trucs. Je me souviens avoir été fasciné par Giuseppe Pattane. C'était un chef génial d'opéra italien. J'assistais aux répétitions. Je suis venu au Celibidache qui est ici. Souvent à Bernstein, où j'étais assis au pied des trombones quand il enregistrait ici. Il y a beaucoup de répétitions, de rencontres de chefs, de beumes et de pratiques de petits orchestres d'amateurs, notamment à Bruxelles. Je me suis fait sur le tas, comme on dit.
Emmanuel Krivine de ce programme en 1975.
Ah oui, oui. Ah
bah, ça,
j'étais dingue parce qu'on ne peut pas faire ça. Ne serait-ce que par le bras. Le bras n'est pas disponible. Alors j'ai fait l'ouverture des maîtres chanteurs. Donc vous voyez un peu avec la générale le matin ce que ça donne dans le bras. Là, il y avait la cinquième de Tchaïkovski et au milieu, je jouais le cinq Mozart en là. Je ne sais pas comment je faisais physiquement parce que le bras en direction d'orchestre, tu fais attention à rien. Si tu y fais attention, c'est que tu fais ça dans un miroir. Non. Justement, le bras, comme dit Richard Strauss, il occupe parce que tu as envie d'entendre. Il suit ce que tu as envie d'entendre. Donc, tu t'occupes pas des crispations ou pas. Tu fais ce que tu as envie d'entendre. Donc, ça en prend un coup musculairement. Et après, tu sens même pas le poids de l'archer
pour le concerto de Mozart.
Tu sais même pas ce que ça pèse. Alors que ça, c'est de l'horlogerie, c'est de la micro-horlogerie, le violon, c'est monstrueux. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour sortir des maîtres chanteurs, j'ai dû jouer comme un cochon, j'ai dû massacrer ce Mozart et après passer à Tchaïkovski. L'orchestre a été très gentil alors qu'ils avaient quand même devant eux un gars assez débutant, faut dire.
deuxième volet de ces grands entretiens dédiés à Emmanuel Krivine s'achève avec cette source d'archives. Nous écoutions là un extrait du 5e concerto pour violon de Mozart, celui en La majeure. Le maestro avait 28 ans, il était au violon et à la baguette. C'était son premier concert à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, capté le 13 mai 1975 à Montreuil. Rendez-vous sur francemusique.fr pour la réécoute et demain pour découvrir le troisième épisode de ces grands entretiens avec la même équipe que je remercie, Pascal Bénard, Delphine Baudet, Céline Tran-Nouvelle, Solal Mazran et Perrine Mengui à la réalisation. À demain.
France Musique. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.